France Info.
Édition spéciale sur France Info, en direct de l'ambassade de France en Allemagne. Nous sommes juste à côté de la porte de Brandebourg. Vous l'apercevez dans mon dos, absolument superbe. Nous sommes au cœur des cérémonies du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Anne-Marie Descotes. Bonsoir, je m'installe à vos côtés. Vous êtes l'ambassadrice de France en Allemagne. En fait, pour être plus précis, j'ai failli vous dire bienvenue. Mais en réalité, c'est vous qui accueillez France Info, ici même, dans cette maison de la France en Allemagne. Juste quelques mots sur la position géographique de l'ambassade, madame l'ambassadrice. C'est un endroit stratégique, la porte de Brandebourg, un endroit bien chargé
sûr,
de symboles.
Hein. Bien sûr, c'est un endroit tout à fait symbolique. C'est la Pariserplatz, la place de Paris. Et cette porte et cette place sont devenues des symboles de liberté ici. Et donc, nous avons beaucoup de chance que l'ambassade de France soit ici. Elle a été installée ici en 1860 par décision de Napoléon III. Et nous y sommes revenus lorsque les Allemands ont décidé que la capitale serait à nouveau Berlin. Et c'est effectivement un lieu stratégique que les Allemands aiment beaucoup.
Alors, Anne-Marie Descotes, madame l'ambassadrice, hein, vous avez connu le rideau de fer, notamment quand vous étiez en poste au service culturel à Bonn. Que reste-t-il, avec le recul, hein, de ce 9 novembre 1989, aujourd'hui ?
Je crois qu'avec 30 ans de recul, ça reste toujours un événement extraordinaire, chargé d'émotions à tous les points de vue, pour les Allemands de l'Est, pour les Allemands de l'Ouest. Et l'ensemble du processus qui s'est déroulé avec une vitesse somme toute extraordinaire, elle aussi, reste quelque chose d'unique dans l'histoire.
Vous avez la sensation aujourd'hui que le peuple allemand fête dignement cet événement où il y a peut-être, sans être négatif, hein, une forme peut-être de début, de commencement, d'oubli, le temps fait son œuvre.
Non, pas du tout. Je crois que ce qui marque cette 30e commémoration, c'est une phase de réflexion sur ce que c'est, puisque depuis quelques années et quelques mois, des critiques se font jour. La réflexion critique sur cette réunification, ce qui a moins bien fonctionné, est à l'œuvre. Et donc, c'est une commémoration qui est très tournée vers l'Allemagne elle-même. C'est une commémoration où les autorités ont voulu montrer que la chute du mur, ici à Berlin, n'est que la fin d'un processus qui a commencé ailleurs, bien longtemps avant, et qui s'est déroulé dans les Länder de l'Est, à différents endroits, avec différentes étapes.
Mais Anne-Marie Descotes, vous diriez que l'histoire est en mouvement aujourd'hui. On a vu, hein, les élections dans les Länder de l'ancienne DDR, l'ancienne République, on va dire, de l'Est, de la République démocratique allemande, de l'ancien pays communiste. On voit cette extrême droite qui monte. On a l'impression qu'il y a un début de commencement de ressentiment.
Peut-être. Je crois que c'est dû au fait que, en dépit des efforts considérables qui ont été faits, cette réunification, ce sont quand même, entre 1990 et 2014, 2 000 milliards d'euros. Donc c'est un effort considérable. Oui. Il reste des différences qui sont aujourd'hui soulignées et qui sont ressenties avec une certaine amertume. Des différences dans le niveau des salaires, dans le niveau des retraites, dans le fait que le haut encadrement reste à 90%. Occupé, absolument. Et donc, ce sont ces éléments sur lesquels il est facile pour l'AFD, pour les populistes, de jouer, que se construit aujourd'hui ce sentiment d'amertume.
Alors, vous l'avez évoqué ce matin sur France Info, quand vous étiez au micro de Marc Fauvel et Renaud Dely. Je ne sais pas jusqu'où l'ambassadrice peut aller dans ces mots, mais la mort cérébrale de l'OTAN, ce sont les propos le constat, on va dire, d'Emmanuel Macron, le président de la République, dans The Economist. Après cette attaque turque contre les Kurdes de Syrie, est-ce qu'au fond, ce constat du président de la République française a jeté un petit froid, on va dire, diplomatique à Berlin ?
Un froid, je...
De ce que vous pouvez en dire.
En tout cas, hein, oui. des réflexions. Bon, il y a eu des expressions publiques, et notamment de la chancelière, sur le fait qu'elle n'était pas d'accord avec cette manière
brutale, hein,
de présenter les
oui.
choses, tout à fait. Je crois, en tout cas, je rencontre depuis hier beaucoup de personnalités politiques qui partagent l'analyse. Peut-être ne l'aurait-elle pas exprimée de cette façon, et le président de la République a voulu créer un électrochoc, a voulu forcer le débat, parce que ça fait plusieurs mois, 2 ans presque, qu'il alerte sur les signaux, les évolutions en termes de sécurité. Et il a le sentiment que les choses n'évoluent pas assez vite, que la prise de conscience n'est pas assez rapide. Et je crois que c'était une manière de vouloir accélérer ce processus de prise de conscience.
Mais quand on voit le comportement du président turc, M. Erdogan, quand on voit M. Trump, le président des États-Unis, qui semble peut-être vouloir, allez, pardonnez-moi la trivialité de l'expression, retirer ses billes peut-être un jour de cette alliance atlantique, nous sommes peut-être à un virage de l'histoire.
Mais certainement, c'est à cela que le président souhaite que nous réfléchissions et que nous travaillions ensemble. C'est un élément que la chancelière elle-même, dès le mois de juin 2017, avait relevé au moment de sa campagne électorale. Elle avait dit, voilà, les temps sont venus où nous ne pouvons pas compter sur les autres pour notre sécurité. Et donc, ce que souhaite le président de la République, c'est que l'Allemagne, à nos côtés, en tire toutes les conséquences et fasse les choix qui s'imposent aujourd'hui plus vite qu'elle ne l'envisage.
Les quatre présidents vainqueurs alliés ne sont pas là pour les commémorations officielles ce dimanche. Il y a une explication à ça?
Oui, alors je ne peux pas me substituer aux autorités allemandes pour l'expliquer, mais je crois qu'aujourd'hui, on fête le processus qui concerne la chute du mur. La réunification, c'est 1990, donc ce sera 2020.
Ce sera l'année
prochaine.
Et
je pense que l'année prochaine, le 3 octobre 2020, ce sera vraiment la fête de la réunification et pour l'Allemagne du moment où elle recouvre sa souveraineté.
Anne-Marie Descotes, il nous reste une poignée de secondes. Vous êtes agrégée d'allemand. Allez, l'émission Les Informés, comment elle devrait s'appeler ici en Allemagne? Je vous pose une colle.
Je ne sais pas comment les Allemands l'appelleraient, mais « gut informiert zu sein » est évidemment toujours la meilleure des choses et c'est la meilleure façon de pouvoir ensuite prendre position politiquement.
Merci en tous les cas, Madame l'ambassadrice de France en Allemagne, hein, Anne-Marie Descotes, de nous recevoir ici même. Vous nous laissez les clés, le temps de terminer l'émission.
Avec grand plaisir.
Et de suivre aussi la spéciale sur France Info. Et merci d'avoir accepté cette interview ce soir.
Merci à vous. Bonne soirée.
Allez, il est 20h10 sur France Info. Le temps de revenir à l'info avec le rappel de l'info et vous, depuis Paris, hein, Thomas Bénèche.
Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, dénonce des jugements négatifs, ni fondés, ni encore moins démontrés. Réaction à ces deux rapports de la Chambre régionale des comptes qui étrillent la gestion de sa ville. Les magistrats relèvent entre autres un manque de moyens pour les écoles, une situation financière préoccupante. Ils doivent encore être examinés sur le fond. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise valide aujourd'hui dans la forme les deux arrêtés anti-pesticides pris par les villes de Gennevilliers et Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Une première dans l'Hexagone sur France Info. La ministre de la Transition écologique parle d'affichage, les pesticides étant déjà interdits dans les villes. Campagne de recrutement au grand jour pour le renseignement intérieur français. Objectif de la DGSI, embaucher 1200 personnes d'ici 5 ans. Une initiative inédite pour séduire, trouver aussi les effectifs nécessaires. Le renseignement intérieur compte s'appuyer sur le réseau social LinkedIn ou bien encore sur des partenariats avec les écoles supérieures et Pôle emploi. L'OTAN s'est montrée remarquable en tant qu'écran protecteur de la liberté, selon la présidente de la Commission européenne. Réaction au dernier propos du chef de l'État français. Dans un entretien à The Economist, Emmanuel Macron a considéré l'Alliance Atlantique en état de mort cérébrale. Des militants pro-démocratie rassemblés ce soir à Hong Kong. Mobilisation en hommage à cet étudiant mort aujourd'hui après sa chute d'un parking le week-end dernier lors d'affrontements avec la police. Les forces de l'ordre jugées par les contestataires comme responsables du décès de ce militant. Début ce soir de la 13e journée de Ligue 1 de football. Nice 13e au classement reçoit Bordeaux, le 6e. Le coup d'envoi de cette rencontre, c'est à partir de 20h45.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Allez, la suite de notre édition spéciale Les Informés, en direct, hein, je vous le rappelle, de l'ambassade de France. À Berlin, Berlin et l'Europe qui fête, vous le savez, la chute du mur, 30e anniversaire, mais où est passée l'euphorie 30 ans après? Nous allons porter un regard avec nos invités, hein, sur cette page d'histoire si proche dans nos mémoires et sur notre vieux continent confronté au bouleversement du monde. À mes côtés, Nicolas Offenstadt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, auteur des deux ouvrages. Alors, ils sont là sur la table. Il y en a un qui est un bel objet, c'est Urbex RDA chez Albin Michel et Le pays disparu sur les traces de la RDA qui est publié par Gallimard Stock. À mes côtés également, bonsoir à vous, Angela Ulrich.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste Vous m'avez fait un résumé hein, de la radio publique allemande, ça vous convient?
Oui, ça me convient très bien.
C'est impeccable. Et avec moi, mon complice, hein, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc. Et
bonsoir, bonsoir à tous.
Directeur de la rédaction internationale de Radio France. Avec tous les trois, j'aimerais que nous peut-être portions un regard sur ces Allemands. On va commencer par vous, Nicolas Hoffenstadt. Le peuple allemand, comment selon vous fête-t-il ce 30e anniversaire? Y a-t-il de l'engouement ou peut-être ça manquerait un petit peu de souffle?
Il y a les deux. La chancelière rappelait dans son entretien au Spiegel que c'était un événement heureux pour elle et qu'il fallait insister là-dessus. Elle insistait sur la dimension de liberté, de libération qu'avait pu être la chute du mur. Donc il y a la dimension évidemment de rappel d'un événement central dans l'histoire de l'Allemagne. Mais vous avez raison, il n'y a pas que cet aspect de célébration de la liberté et qui pour les Allemands est quelque chose de particulier, c'est aussi les retrouvailles. Puisqu'évidemment la chute du mur c'était la possibilité pour les Allemands de l'Est et de l'Ouest de retrouver des familles, de retrouver des amis, donc c'était quelque chose de proprement allemand aussi la chute du mur. Hein. C'était oui. Pas simplement un événement international, il y a une dimension internationale parce qu'on se dit...
Il y a une dimension humaine. En
fait. Voilà, il y a une dimension humaine et une dimension inter-allemande. Donc ça c'est un aspect qui peut être fêté par ceux qui donc peuvent se souvenir que grâce à la chute du mur, ils ont pu se retrouver. Et puis sans doute, il y a aussi un aspect plus grave, vous l'avez dit à juste titre, puisque c'est une Allemagne aujourd'hui qui est quand même dans une situation qu'on peut interroger, notamment marquée par une très forte présence de l'extrême droite dans les territoires de l'Est, qui évidemment interroge, une extrême droite qui s'est avérée très violente. Vous savez qu'il y a eu le premier meurtre politique récemment depuis 1945 avec l'assassinat de Lübke, donc du coup d'un membre de ouais. la CDU. Un politicien de premier rang. Donc on est dans une Allemagne qui, du point de vue politique, se pose des questions. Et ça se marque en particulier parce que cette extrême droite, elle est plus forte à l'Est ouais. qu'à l'Ouest. Et donc, du coup, ça rappelle aussi le clivage entre les deux Allemagnes. J'en parlais en venant ici avec un chauffeur de taxi qui me dit « Mais vous savez, on est complètement clivés encore. Hein. » Donc c'est une discussion que vous avez tout le temps en Allemagne. On n'est pas clivés uniquement symboliquement. Il y a des choses très concrètes. Et donc ces deux Allemagnes, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Il y a une expression qu'on entend souvent ici, c'est « Le mur est toujours dans les têtes ». Donc, vous voyez, entre la chute du mur qui célèbre la liberté, qui célèbre le retrouvailles allemandes, et ce mur qui est toujours dans les têtes, on est quand même dans un moment très ambigu.
Jean-Marc Four, nous l'évoquions hein, hors antenne, vous vous expliquiez tout à l'heure qu'au fond, effectivement, l'AFD est en puissance, en force, dans ses Länder, ses États 20, de l'Est.
23, 24, oui. 25, 27% en Thuringe, là, avant en Saxe, dans le Brandebourg, et même dans certaines circonscriptions, 35, 40, on est sur des...
Comment l'expliquer, Jean-Marc Four?
Alors, on peut soulever une hypothèse, en tout cas. On peut se demander s'il n'y a pas une forme de lien entre cette poussée très forte de l'extrême droite dans les Länder d'ex-Allemagne de l'Est, avec une forme de, si vous voulez, de refoulement de la double histoire, c'est-à-dire de refoulement de la période nazie, parce qu'il y a eu un basculement brutal vers le communisme, et ensuite de refoulement du communisme, avec un basculement tout aussi brutal, d'une certaine manière, vers le capitalisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans quelle mesure est-ce que ce travail mémoriel a été fait ou pas? Et dans quelle mesure est-ce que ça explique ou pas cette poussée de l'extrême droite? Je mets ça sur la table, histoire d'alimenter un peu la conversation.
Alors, Angela Ulrich, oui. Avec vous, est-ce qu'il y a une forme de ressentiment profond qui n'a pas totalement disparu entre cette Allemagne de l'Est et cette Allemagne de l'Ouest opulente hein, qui soudain s'est occupée à relever cette petite sœur qui était au fond un enfant malade de grand ensemble allemand?
Si je compare là, il y a 5 ans, on avait une grande fête ici pour le 25e anniversaire de la chute du mur, avec des lampions, avec une grande célébration. Ouais. Et là, il y avait vraiment encore une grande, grande fête. Et là, je crois que ça s'est calmé à cause de l'extrême droite et tout cet sentiment de beaucoup de gens de l'Est quand même. D'un côté, on a profité de quand même beaucoup, beaucoup de la réunification. Là, il y a les sondages qui disent ça clairement, aussi pour les gens de l'Est, mais qui se sentent pas vraiment, comment dit-on en français, leur travail, leur vie, pas vraiment estimé,
pas
vraiment
pas
bien
reconnu.
Voilà, reconnu.
Et Mme l'ambassadrice Anne-Marie Descôtes rappelait cette statistique, hein, 80% des, on va dire, des dirigeants qui sévissent à l'Est viennent de l'Ouest.
Justement.
C'est quand même significatif.
Tout à fait.
Je crois que Nicolas Hoffenstadt, vous voulez répondre à Jean-Marc Four. Hein.
Oui, la question, c'est il faut différencier les différents rapports à la mémoire. Je pense que l'Allemagne de l'Est a énormément fait un travail de mémoire sur le nazisme. Elle l'a fait à sa manière, c'était la célébration de l'antifascisme comme une idéologie fondatrice. Donc on parlait tout le temps du fascisme et du nazisme en Allemagne de l'Est. Hein. Tous les enfants d'Allemagne de l'Est sont allés voir les camps de Buchenwald ou de Ravensbrück. Donc, mais c'était un antifascisme d'État qui était une forme de discours officiel. Donc ça n'empêchait pas qu'il y avait une réalité, mais c'était un travail de mémoire.
Et ce travail de mémoire était absent à l'Ouest ?
Il a été fait très différemment. Il a été fait aussi en profondeur. Il a mis du temps aussi. On sait qu'il y a des procès qui ont été très tardifs et il a été fait très différemment. Il faut rappeler quand même que la dénazification a été plus importante en Allemagne de l'Est qu'elle n'a été en Allemagne de l'Ouest. Mais depuis, les Allemands de l'Ouest ont fait un énorme travail. Hein. C'est quand même un pays qui, du point de vue de travail sur la mémoire, est vraiment exemplaire. Hein. L'Allemagne ne cesse de réfléchir à la période nazie. Ce qui, peut-être, elle n'a pas assez réfléchi, et ce qui explique notre débat de ce soir, c'est plutôt la période depuis 1990. Parce que ce qu'ont vécu les Allemands de l'Ouest et ce qu'ont vécu les Allemands de l'Est est complètement différent. C'est deux expériences. Vous étiez dans une petite ville tranquille en Allemagne de l'Ouest. Il ne s'est pas passé forcément grand-chose pour vous après l'unification. Vous étiez tranquillement là, ici, ouais. Dans la Ruhr ou dans le Palatinat. Par contre, la vie de beaucoup d'Allemands de l'Est a été extraordinairement bouleversée. C'est-à-dire, c'est la découverte du chômage, c'est la découverte du chômage de masse. Vous savez qu'il y a des millions de sans-emploi en Allemagne de l'Est dès le début des années 90. Quand on connaissait le plein emploi à l'époque de la RDA, c'est un bouleversement. Et l'entreprise était tout pour ces gens-là. Donc, ils ont connu un moment vraiment dramatique pour certains d'entre eux, pas pour tous. Heureusement, certains ont profité pour faire voir leur carrière s'envoler, mais pas tous. Et donc, ce ressentiment des années 90 face au chômage, face à la perte de la protection sociale, c'est quelque chose qui n'a pas été complètement travaillé et qui aujourd'hui, finalement, pèse sur la situation allemande.
Et juste un mot avant le rappel de l'info, Angela Ulrich, il y a aussi quand même une nouvelle génération qui grandit en Allemagne, qui n'a pas connu le mur.
Ouais, justement, mais c'est très étonnant que même parmi ces gens-là, les jeunes, ils ont voté vraiment très fortement à Thuringe, par exemple, pour la AfD, où on se dit pourquoi. Et justement, les leaders de la AfD à Thuringe, ils s'occupent ou ils s'emparent un peu du mémoire Est, qui sont pas vraiment eux, ils viennent de l'Est. Donc c'est complètement fou. Et là, c'est intéressant de voir que c'est pas une question de vieux personnes qui vraiment ont un vrai mémoire pour la RDA, mais les jeunes qui se sentent pas vraiment bien.
Par les nouvelles générations.
Voilà.
Allez, 20h et 20 minutes sur France Info. On marque une nouvelle pause pour le rappel de l'info depuis Paris avec vous, Thomas Bénèche.
Une Française accuse dans les colonnes le Parisien, le Roman Polanski, de viol. Les faits ont eu lieu, selon elle, en 1975 à Gstaad, en Suisse. Elle avait alors 18 ans. Le cinéaste, par l'intermédiaire de son avocat, cité par le journal Le Parisien, conteste toutes ces allégations. Les deux arrêtés antipesticides pris au printemps dernier par les villes franciliennes de Gennevilliers et Sceaux, maintenus, une première dans l'Hexagone. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise refuse leur suspension, comme le demandait la préfecture des Hauts-de-Seine. Ces arrêtés sont de l'affichage, dit sur France Info la ministre de la Transition écologique, les pesticides étant déjà interdits en ville. À la SNCF, la CGT, cheminots appellent également aujourd'hui à la grève contre la réforme des retraites. Le mouvement doit débuter le 5 décembre prochain. Le syndicat rejoint ainsi Sudrail et l'UNSA ferroviaire. La CGT évoque aujourd'hui une situation explosive du fait des choix stratégiques et d'organisation de la compagnie ferroviaire. L'écrivain Luc Lang, prix Médicis 2019 pour son livre La Tentation. Un ouvrage sombre, récit d'un monde en train de s'effondrer.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et puis, il y a cette interview d'Emmanuel Macron dans The Economist avec deux déclarations étonnantes du président français. Tout d'abord, il signifie la... Je le cite, la mort cérébrale de l'OTAN, on va évoquer l'affaire turque notamment, et puis apparemment Emmanuel Macron, Jean-Marc Four, a envie de jeter aux orties la doxa des fameux 3% en Europe. Est-ce que cela jette un petit froid en pleine commémoration de ce 30e anniversaire de la chute du mur?
C'est un moment particulier, il a choisi son moment. Bon voilà, il met un peu les pieds dans le plat. Après, pour parler d'abord de l'OTAN, c'est deux sujets quand même un peu différents, les 3%, mais restons peut-être un peu sur l'OTAN. Effectivement, je pense qu'il y a deux façons, moi, d'interpréter les propos d'Emmanuel Macron. On peut y voir, en première intention, ce qu'il dit lui-même, il faut muscler l'Europe de la défense comme alternative à l'OTAN. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être une façon de dire à nos amis allemands que il faut que ça aille un petit peu plus vite sur les projets communs. Il y a l'avion, le projet d'avion commun, il y a le projet de char commun. Tout ça est un petit peu enlisé aujourd'hui. Donc c'est peut-être une façon de dire allez, on remet un coup sur l'accélérateur. Ça, c'est une interprétation possible. Ouais. Il y a une deuxième interprétation possible. Quand vous dites de quelqu'un qu'il est en mort cérébrale, vous pouvez être aussi en train de dire que vous voulez le ranimer. Vous voyez ce que je veux dire, que de créer un électrochoc pour le ranimer, ça peut être aussi une façon de dire investissons davantage l'OTAN, parce qu'on en a besoin et qu'à ce jour, comme il n'y a pas d'Europe de la défense, il faut bien faire avec l'OTAN.
Nicolas Hoffenstadt, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, au fond, le président turc lui a fait beaucoup de mal.
Oui, c'est sûr, et ça nous ramène d'ailleurs au mur, puisque d'une certaine manière, si la France, en quelque sorte, acceptait assez facilement ce qui était en train de se passer en 89-90, c'était l'idée que l'OTAN devait être un cadre protecteur, hein, au sein duquel l'Allemagne nouvelle, l'Allemagne réunifiée, devrait évidemment pouvoir s'intégrer. Donc c'était aussi une protection par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90. Donc effectivement, là, il est évident que abîmer l'OTAN, c'est aussi une mémoire de cette époque de 90, comme c'est en train de se passer.
Angela Ulrich, au fond, le principe de l'OTAN, c'est de porter secours à un des membres de l'Alliance s'il était menacé. Donc nous devrions être aux côtés des Turcs, puisqu'ils sont supposément menacés par les Kurdes, qui sont nos alliés contre le terrorisme. Franchement, l'Alliance Atlantique va résister à ce scénario?
Oui, je crois qu'elle va résister.
Vous pensez qu'elle va résister, vous?
Là, oui, je crois, parce que justement, aujourd'hui, Angela Merkel, elle s'est rencontrée avec Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, et là, elle a répondu à Macron dans son cadre calme, on dirait. Elle n'était pas très énervée de cela, mais elle a pris l'occasion pour encore une fois dire comment elle trouvait ça intéressant, important, et comme la nouvelle ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, elle a commencé à définir un peu ou faire un plan d'une autre politique étrangère de l'Allemagne. C'est pas du tout, parce qu'il y avait un grand débat en Allemagne. C'est pas sûr que ça va se réaliser comme elle veut, mais il y a un débat et ça commence. Et justement, pour cela, je crois l'Allemagne va vraiment être intéressé, beaucoup intéressé à tenir l'OTAN, bien sûr.
Mais la chancelière a rencontré certes le secrétaire d'État américain, Jean-Marc Four, mais après tout, elle a aussi recadré auparavant le président Emmanuel Macron.
Qu'elle va voir après demain soir ici à Berlin, puisqu'Emmanuel Macron vient dimanche soir à Berlin pour rencontrer Angela Merkel et Frank-Walter Steinmeier, le président allemand. Je pense qu'il y a deux choses sur l'OTAN. D'un côté, vous avez un outil qui fonctionne, c'est-à-dire qu'en termes militaires, en termes d'opérabilité, si vous voulez. L'outil fonctionne plutôt mieux aujourd'hui qu'hier, et c'est aussi ce que disent les Allemands. Après, il y a un
autre... Merkel tient vraiment à des choses qui marchent.
Vous parlez de la défense européenne ?
Non, je parle de l'opérabilité des armées au sein de l'OTAN, de leur façon de coopérer au sein de l'OTAN. L'outil fonctionne. Après, la question qui se pose, c'est quel est le but ? Quel est l'objectif ? À quoi ça sert ? Et c'est là où il y a une question, puisqu'effectivement, c'est créé au départ pour faire face, en gros, au bloc de l'Union soviétique. Aujourd'hui, le paysage est différent. Il faut faire face à quoi ? À une menace militaire russe qui réapparaît ? À la menace terroriste ou à la cyberguerre chinoise ? Vous voyez ce que je veux dire ? Quel est le but à définir ? Voilà. C'est là où je pense qu'il y a une forme de désaccord aussi.
Nicolas Hoffenstadt, l'autre aspect, on y reviendra aussi dans la deuxième partie des informés de cette interview présidentielle, ce sont les 3%. Après tout, les Allemands y tiennent, mais plus vraiment le président français.
En fait, c'est...
pas si on fait figure de mauvais élève,
Oui, la question qui est posée, me semble-t-il, c'est quelle relation franco-allemande aussi à travers toutes ces questions-là. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Il faut rappeler quand même qu'au début de son mandat, et c'est intéressant que ces choses reviennent aujourd'hui, c'est qu'au début de son mandat, finalement, Emmanuel Macron avait quand même très insisté pour une relance européenne. On rappelle tous ces grands discours qui avaient été accueillis du côté allemand avec sympathie, mais sans forcément un grand engagement.
Méfiance, vous diriez aussi.
Oui, tout à fait. Il y avait cette idée que, effectivement, parce que, comme vous le disiez, c'est pas exactement les mêmes engagements politiques. Donc moi, je trouve que ces questions-là, ça pose quand même fondamentalement la question du couple franco-allemand aujourd'hui. Et puis aussi la question, effectivement, de quelle construction européenne après le Brexit. Donc du coup, c'est pas seulement une affaire de conjoncture au moment de cet anniversaire, mais ça pose ces deux questions fondamentales. Et à mon sens, la question franco-allemande, elle est absolument centrale, puisque ce couple est encore plus au cœur des enjeux aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement brûlant
pour l'Europe.
Angela Ulrich, on va conclure cette première demi-heure avec vous. Ce couple franco-allemand évoqué par Nicolas Hoffenstadt, au fond, est-ce que c'est un couple un petit peu distendu, vous diriez aujourd'hui, un petit peu asymétrique? Il se boude un petit peu.
Il a raison que Merkel, elle a vraiment réagi. Elle n'a vraiment pas beaucoup réagi sur les idées, sur la relance et tout ça de Macron. C'est sûr, elle était dans une période difficile avec un gouvernement qui ne se formait pas, mais dont elle tient vraiment beaucoup en Europe, et elle sait qu'elle a tout en France. Elle a besoin de la France, elle veut être en partenariat avec la France, mais elle est trop peu engagée là-dessus.
Allez, nous allons poursuivre cet échange dans la deuxième partie des informés. Nous vous libérons, Nicolas Hoffenstadt. Reprenez vos livres, hein, ils sont superbes. Et vous revenez ensuite pour la suite de la spéciale sur France Info, je vous rassure. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la deuxième partie des informés de France Info, en direct hein, de la porte de Brandebourg, ici à Berlin. On se retrouve donc après le rappel de la météo et le retour de l'info. À tout de suite.
Et si c'était le moment d'avoir votre site web clé en main avec Orange?
Alors moi, grâce à Orange Pro, j'ai un site web génial pour mes compositions florales.
Ah bah moi j'ai un expert qui s'occupe de tout, de la création jusqu'à la mise en ligne.
Et moi on peut même visiter mon site depuis un mobile.
Moi aussi, j'ai plus qu'à monter ma boîte.
Avec l'offre site web clé en main, Orange vous accompagne pour développer votre visibilité sur Internet. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue.
Communication à caractère promotionnel.
La Française des Jeux entre en bourse. Aujourd'hui, vous pouvez investir dans une entreprise performante, en croissance et utile à tous, avec environ 3,5 milliards reversés chaque année à la collectivité.
Entrez dans l'histoire. Entrez dans le capital de FDJ.
Devenez actionnaire jusqu'au 19 novembre.
L'attention du public est attirée sur les facteurs de risque, dont le risque de perte en capital, figurant dans le prospectus approuvé par l'AMF. Disponible sur le site internet de la société et de l'AMF. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
Les prévisions de la météo avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
Les averses vont devenir de plus en plus rares cette nuit et demain matin. Seules quelques ondées se feront encore remarquer près des Pyrénées et sur la façade est. Le début de journée sera globalement dominé par de nombreuses grisailles sous forme de nuages bas et de brouillard, hormis sur les régions méditerranéennes qui profiteront d'un temps ensoleillé sous l'impulsion du Mistral et de la Tramontane. Au fil des heures, les grisailles vont évoluer favorablement, mais malgré des éclaircies, les nuages resteront prédominants. Une nouvelle perturbation assez active va également aborder les régions de l'ouest. Les pluies arriveront sur la Bretagne dès le matin, puis se généraliseront l'après-midi jusqu'en Normandie, à la Touraine et à l'Aquitaine, avec localement des pluies soutenues et même orageuses. Cette perturbation s'accompagnera également d'un renforcement du vent avec des rafales dépassant 70 à 90 km par heure, voire plus sur le littoral atlantique. Les températures seront encore plutôt fraîches, variant de 7 à 17 degrés demain après-midi.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Oui, les maires ont bien le droit d'interdire un pesticide s'ils estiment que le danger est grave pour la population de leur ville. Voilà en substance le message délivré aujourd'hui par le tribunal de Cergy-Pontoise en Ile-de-France. Pour la première fois, la justice valide ainsi deux arrêtés anti-pesticides, en l'occurrence ceux pris par les maires de Gennevilliers et de Sceaux. Jusqu'à présent, les juges considéraient que seuls les préfets étaient compétents, d'où l'annulation de plusieurs arrêtés ces dernières semaines. Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, relativise cependant ce soir la portée de ce jugement.
Ça n'a rien à voir avec les maires ruraux sur les pesticides à usage agricole. On est dans deux villes en région parisienne. Et en ville, les pesticides sont déjà interdits pour la quasi-totalité des usages. Donc c'est essentiellement des arrêtés d'affichage ou de messages, de déclarations. Ils sont interdits dans les espaces publics depuis le 1er janvier 2017 et ils sont interdits dans les jardins des particuliers depuis le 1er janvier 2019. Donc moi, je partage à 100% la préoccupation de nombreux maires et de citoyens sur la nécessité de réduire l'usage des pesticides. Mais je dis aussi, si les maires veulent aller plus loin, ils peuvent le faire volontairement pour les espaces qui relèvent d'eux, par exemple les cimetières ou les terrains de sport. Et puis, on soutient aussi les communes qui font le choix justement de se passer de pesticides. On a 427 communes qui ont fait ce choix, qui ont un label Terre saine. Et donc, si les maires veulent, enfin, ont d'autres sujets à soulever, on peut tout à fait en discuter avec eux.
La ministre Elisabeth Borne, du lithium en grande quantité serait présent dans le sous-sol en Alsace. Des sociétés de forage évoquent un gisement capable de combler 40% des besoins en France. Le lithium est utilisé pour fabriquer les batteries des voitures électriques. Pour l'heure, ce métal est importé de Chine, d'Australie et d'Amérique du Sud. La Chambre régionale des comptes épingle la ville de Marseille. La gestion des finances depuis 2012 est jugée préoccupante par les magistrats qui dénoncent le temps de travail insuffisant des agents municipaux, mais aussi des départs en retraite compensés parfois par deux embauches pour un seul poste. Une actrice française accuse Roman Polanski de viol. Les faits auraient eu lieu en 1975. Valentine Monnier s'exprime dans le journal Le Parisien ce soir, à 5 jours de la sortie du nouveau film du réalisateur consacré à l'affaire Dreyfus. C'est notamment ce qui a décidé cette femme à parler, une femme âgée aujourd'hui de 62 ans. À l'étranger, à l'instant, au Brésil, la justice autorise la libération de l'ancien président Lula. Et puis des veillées à la bougie à Hong Kong en ce moment, manifestation de douleur et de colère après la mort d'un étudiant de 22 ans qui était l'une des figures de proue du mouvement pro-démocratie. Le jeune homme est tombé d'un parking public à étage le week-end dernier lors d'affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Il est décédé ce matin. La culture, le prix Médicis, décerné aujourd'hui à Luc Lang pour son roman La Tentation, paru chez Stock, l'histoire d'un monde où l'argent est roi et où la place de l'humanisme diminue. France Info, 20h33, les informés à Berlin. La suite, c'est tout de suite.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info, toujours ici dans notre édition spéciale, hein, depuis l'ambassade de France à Berlin, devant la porte de Brandebourg, avec nos invités, avec vous Angela Ulrich, vous êtes journaliste à la radio publique allemande, avec Jean-Marc Four, directeur de la rédaction internationale de Radio France, et nous en rejoint Jakob Fogel, bonsoir.
Bonsoir,
vous êtes historien et directeur du centre Marc Bloch à Berlin. Et avec vous, bonsoir et bienvenue également, Effie Bolk. Vous êtes bienvenue, philosophe allemande. Vous êtes membre de la direction de la Fondation Rosa Luxembourg. Et vous êtes né, vous avez grandi à Berlin-Est. Votre regard est particulièrement précieux ce soir. Alors, avant de revenir sur le pavé dans la mare européenne jeté par Emmanuel Macron, son interview à The Economist dans laquelle il crucifie l'OTAN ainsi que la règle des 3%, et puisque vous nous avez rejoints pour cette deuxième partie, j'aimerais avoir votre regard à tous les deux sur ces festivités du 30e anniversaire de la chute du mur. 3 décennies plus tard, je commence par vous, Effie Bolk. Est-ce que vous diriez que les Allemands, au fond, il y aurait une forme de morosité ici en Allemagne? Il n'y aurait pas un vrai engouement?
Oui, alors je suis très contente d'être oui. ici et de voir cette illumination là-bas. Et je me souviens des événements il y a 30 ans. J'étais ici à Berlin et j'avais vécu toutes ces transformations. Comme vous avez déjà dit, je suis née et grandie ici. Et bon, si vous voulez, je peux en raconter quelque chose, mais peut-être
quand,
un
quand
peu
le
plus.
Mur tombe, vous éprouvez du bonheur, parce que vous êtes à l'Est, vous, hein?
Oui, j'étais à l'Est. Le soir du 9 novembre, j'ai rien... remarqué,
oui.
Mais le jour, le 10 novembre, j'avais participé à un cours de français, de la langue française, et puis j'ai pris mon ex-mari et nous sommes allés par le Tränenpalast, ça veut dire par le palais des larmes, à Berlin-Ouest. Et nous avons fait une longue, longue, longue promenade à pied. Nous étions invités à prendre un café par des gens sur les rues. Et puis, c'était choquant pour moi, pour ainsi dire. Nous sommes tombés dans une librairie qui n'existe plus. C'était la librairie Kiepert dans la Knesebeckstraße. Et là, j'avais le vertige.
Vous avez le vertige?
Oui, oui. Parce que
c'est la joie, c'est le bonheur
ou... Non. Parce qu'il y avait tous les livres dont j'avais eu besoin.
Absolument.
Pour travailler sur ma thèse de doctorat.
Ça a été une délivrance. Hein?
C'était une délivrance que j'avais seulement une semaine avant, j'ai fait ma thèse de doctorat.
Allez, Alors, écoutez, on va passer à vous, Jacob Fogel. Même question au fond. Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui qu'il y a une espèce de morosité dans l'air? Est-ce qu'on a conscience de ce qu'est ce 30e anniversaire? Au fond, à l'instant, Effie Bull que nous rappelait ce moment intense de bonheur, de délivrance qu'aura été l'événement. Mais c'était il y a 30 ans.
Moi, j'étais ici aussi à Berlin, mais de l'autre côté, en fait, on a pratiquement le même âge. Et donc, ce qui est très intéressant.
Vous étiez en face.
J'étais plus ou moins en face. Mais ce qui était très intéressant à ce moment-là, j'étais jeune doctorant en histoire aussi, qu'on avait la visite des gens, jeunes gens aussi, des jeunes doctorants de l'université Humboldt quelques jours après la chute du mur. Et ce qui était très intéressant, ce qu'ils ont devenu, certains sont devenus très importants et un est maintenant professeur aux États-Unis. Et donc c'était pour nous une ouverture vers un pays que moi j'avais connu très rapidement lors de deux voyages, mais qu'on connaissait mal, en fait. Et pour ça...
C'était deux pays différents.
C'était deux
avec
pays...
Avec un même peuple.
Ben justement, c'était la question déjà pour les gens de notre génération. Est-ce qu'on pense être... vivre plutôt dans deux pays différents. Moi, à l'époque, j'étais juste venu de mes études que j'avais fait à Paris. Et pour moi... j'avais des amis français qui avaient un passeport français différent. Et donc, le fait même que les Est-Allemands avaient un autre passeport, en soi, ne me choquait pas. Mais ce qui était bien, et c'est pourquoi le 9 novembre était un événement si important, parce qu'il y avait la joie, il y avait la possibilité d'ouvrir et de voyager. Et c'était ça ce qu'on voulait pour nos amis.
Jean-Marc Four, à travers ces deux témoignages passionnants qui se font face, mais qui sont au fond amicaux, on pourrait le dire, deux pays si différents. Et vous, Effie Bulk, qui découvrez ces trésors, ces livres qui étaient inaccessibles avant, on devine en creux la différence de niveau qu'il y avait entre ces deux
hommes. On voit bien aussi à quel point c'était un moment extraordinaire. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une forme de contraste avec le fait, vous l'évoquiez dans votre question initiale, qu'il y a aujourd'hui des célébrations que je qualifierais de mezzo voce, si vous voulez. C'est pas la grande histoire, il n'y a pas une grande cérémonie internationale, il y a les pays du groupe de Visegrad, les Polonais demain qui sont là, Tchèques, Slovaques, Hongrois, mais il n'y a pas une grande cérémonie, Bon, c'est un peu, voilà, mezzo voce. Alors, probablement parce que il y a un contraste avec ce que ça représentait. Et, alors, une génération est passée, plus d'une génération est passée, c'est une explication. Il y a peut-être une autre explication qui est que ce qui aujourd'hui continue de questionner l'Allemagne, ce sont davantage les effets de la réunification. Et ça, c'est dans un an. C'est-à-dire que les 30 ans de la réunification, ce sera dans un an. Anne-Marie Descotes en parlait, l'ambassadrice de France, tout à l'heure.
Et peut-être pour vous, l'événement important, c'est l'année prochaine.
Bah, disons que peut-être que pour les Allemands, c'est très important, la chute du mur. Évidemment, on voit bien à quel point c'est important. Mais dans un an, les 30 ans de la réunification, c'est un sujet probablement tout aussi important.
Angela Ulrich, rapidement, avant le rappel du titre, mais vous aurez la parole, ne vous inquiétez pas.
Seulement, brièvement, parce que je crois que la chute du mur, justement, c'est plus la fête, commémorer ça, c'est la fête, la joie, encore. Et la réunification, là, les problèmes commencent. Comment on l'avait fait? Qu'est-ce qu'on a manqué? Comment les gens ne sont pas vraiment bien vus de l'Est? Donc là, c'est plus pour moi... Ça, c'est plus problématique.
Allez, 20h40 sur France Info. Je ne sais pas si depuis Paris, nous allons pouvoir avoir le rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch. C'est parti, c'est à vous, vous avez la parole.
Deux rapports de la Chambre régionale des comptes épinglent la gestion de la ville de Marseille. Elle pointe un manque de moyens pour les écoles, révèle des travaux budgétés, votés mais jamais réalisés pour cause de finances exsangues. Ces documents doivent être dévoilés en conseil municipal le 25 novembre prochain. Les investisseurs appelés à la vigilance par l'autorité des marchés financiers. Des sites internet frauduleux proposent en ce moment d'acquérir des actions françaises des jeux. L'AMF les recense sur sa page web. Jusqu'à présent, les particuliers se sont déjà positionnés pour l'achat de quelques 200 millions d'euros de titre FDJ. La Turquie prévient, lundi elle renverra les prisonniers du groupe État islamique détenus sur son sol, notamment ceux originaires de pays européens. Le ministre de l'Intérieur turc n'en précise pas la liste. Le président évalue lui à 1200 le nombre de djihadistes de Daesh incarcérés dans son pays. Enfin, Nice-Bordeaux en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 de football. Le match démarre dans 5 minutes.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés,
Jean-François Aquili.
Effie Bolquet, alors que nous évoquions à l'instant cet événement à venir, celui de l'année prochaine, l'anniversaire au fond, les 30 ans de la réunification. Vous pensez, vous aussi, vous qui avez vécu la chute du mur côté Est, vous pensez que cet événement à venir est au fond le plus important ?
Alors, je crois tout le monde a son histoire personnelle et spécifique, et je dois dire, alors pour moi, ce sont trois événements qui se sont inscrits dans mon histoire et ma mémoire. Alors, c'est le 7 et 8 octobre 89. Parce que la violence de la police, de la RDA, était visible ici à Berlin-Est. Puis, c'est le 2 novembre 89, quand j'avais fait ma thèse de doctorat, et puis le 9 novembre. Et naturellement, alors, je voudrais souligner ce que a dit Jakob Vogel, c'était une ouverture pour moi. Et j'avais senti une certaine libération, etc. Naturellement, après, il commençait, comme avait dit Angela Ulrich, des problèmes. Mais quand même, il y avait un taux de possibilité qu'on pouvait et devait prendre et réaliser. Et c'est pour cela, pour moi, le 9 novembre n'était pas la fin, mais une ouverture.
Jakob Vogel, ce qui se produit en ce moment, cette commémoration, on entend d'ailleurs les rumeurs de concerts derrière Porte de Brandebourg, ce qui se produit, cet événement que nous évoquions avec Jean-Marc Four, c'est-à-dire cet anniversaire à venir, mais au fond, celui-ci aussi s'inscrit dans cette même dynamique de réunification des Allemagnes, est-ce que cela raconte aussi peut-être une Allemagne qui est en train de changer de visage ? Une Allemagne qui est en train qui est en devenir, finalement.
Il faut, en tant qu'historien, toujours comprendre que, à travers le temps, les événements changent de signification pour les gens. Donc on a discuté dans les années 90, l'unification, il y avait beaucoup des positions qu'on retrouve aujourd'hui dans les débats qui étaient déjà exprimées à l'époque. Donc en quelque sorte, à la fois il y a un renouvellement, mais aussi il y a beaucoup de choses qu'on critiquait déjà depuis longtemps, la façon comment on s'est fait, notamment sur le plan économique, l'unification, ça c'était vraiment quelque chose très débattu déjà dans les années 90. Ouais. Mais aujourd'hui, bien sûr, le contexte politique a changé, à la fois à l'intérieur de l'Allemagne, mais aussi à l'extérieur. Et donc, bien sûr, on va aussi réfléchir différemment sur ce qui était ces événements pour nous. Mais si on réfléchit d'abord à cette date du 9 novembre, et on l'avait dit, c'est d'abord la joie. Et quand on voit ici à Berlin, par exemple, vous avez pas mal d'indications aussi que bon, la morosité, c'est peut-être lié au temps qu'il
au
fait
d'or,
mais en même temps, chez les gens, pour le 9 novembre, il n'y a aucun problème de commémorer ça dans la joie.
Angela Ulrich, cette Allemagne aujourd'hui, cette Allemagne réunifiée qui se commémore, au fond, est-ce qu'elle se pense en seul pays allemand ou elle se pense européenne ? C'est une vraie question parce qu'au fond, quand Emmanuel Macron veut changer le code, nous évoquions dans la première partie sa critique sévère, ce rejet de ce dogme des 3%, quelque part, il s'adresse à Angela Merkel parce que c'est important pour l'Allemagne d'avoir des bons voisins qui gèrent bien leurs comptes. Est-ce que l'Allemagne aujourd'hui se projette dans l'Europe ou est-ce qu'elle reste une puissance à part entière ?
Non, je crois pour l'Allemagne, l'Europe était toujours très important et les dernières élections européennes, c'était un vrai sujet en Allemagne. On s'est intéressé là-dessus. Je crois que peut-être, il faut en discuter, la place de l'Allemagne dans cette Europe change un peu. On était bien côté défense, par exemple, ce sujet-là, on s'est toujours un peu tenu en arrière. On a dit, avec cette histoire, il faut être très, très prudent. Et c'était juste. Mais là, maintenant, peut-être l'Allemagne doit plus faire et un peu rechercher sa place là dans l'Europe, mais je crois l'Allemagne est tout à fait conscient que ça marche que avec l'Europe.
Ouais, Jean-Marc Four, l'Allemagne quand même, elle empile les excédents. On n'a peut-être pas trop envie d'y toucher finalement.
Non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Angela. Je pense que l'Allemagne se pense tout à fait européenne. Moi, je suis tout à fait convaincu de ça. Simplement, elle n'a pas nécessairement la même vision que la France sur un certain nombre de sujets européens et particulièrement sur les questions de budget de la zone euro et d'excédents commerciaux et de déficit. Ouais. Elle n'a pas juste la même vision, mais elle se pense tout à fait européenne. Après, il y a un contexte qui est particulier. C'est que malgré tout, on est sur une période, allez pour le dire simplement, de fin de cycle, de fin de règne. Ça fait 13 ans que Angela Merkel est au pouvoir. Elle va y rester au maximum encore 2 ans. Et on voit bien qu'on est sur une fin de règne. La grosse coalition, la grande coalition avec les sociodémocrates, elle bat de l'aile. On voit d'un côté les Verts qui poussent, de l'autre côté l'extrême droite. Il y a quelque chose qui fait que la chancelière n'est pas en position de force. Ouais. Donc ça conduit l'Allemagne probablement à hésiter aussi sur un certain nombre de sujets aujourd'hui.
À ce sujet, Effi Boelke, fin de règne, disait à l'instant Jean-Marc Four, pour Madame Merkel, la chancelière, elle vient de l'Est. Hein. Vous pensez qu'elle devrait peut-être passer la main, partir plus vite que prévu? Elle a quelques soucis apparemment de santé. On a l'impression que l'Allemagne attend quelque chose.
Alors, primo, je voudrais dire que j'admire de quelque part Angela Merkel parce qu'elle a fait un bon job. je voudrais dire.
Vous voulez dire qu'elle a fait du bon travail.
Mm-hmm. Oui. Mais, comme vous l'avez déjà dit, maintenant on attend quelque chose, on attend une transformation de cette société, et pas seulement de la société en Allemagne, mais en Europe et globale. Et c'est pour cela, je crois, et j'en suis sûre, qu'il y aura d'autres personnes qui seront nécessaires pour réaliser ces transformations nécessaires.
Jakob Fogel, la chancelière, elle organise vraiment aujourd'hui la transition politique en Allemagne? On a l'impression que ça prend du temps.
Oui, mais ça, c'est une des particularités aussi du système allemand, que force. On est plutôt dans une discussion qui prend un peu de temps, après les élections aussi, former les gouvernements. Donc je crois que ce n'est pas ça où est le moment Angela Merkel dans ses commémorations actuelles. Ce qui est très intéressant, qu'elle a, un peu pour la première fois, aussi bien dans une interview avec Les Spiegel et aussi aujourd'hui avec la Süddeutsche Zeitung, parlé très longuement sur ses propres expériences en tant qu'Est-Allemande avec les systèmes politiques allemands. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et beaucoup de gens ont dit, on attend que ça d'elle et qu'elle arrive peut-être même trop tard avec ça. Dans tous les débats sur la particularité de l'Allemagne et de l'Est, là, il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire et à nuancer, surtout. Mais là, c'est vraiment une prise de position, ou deux prises de position, très intéressantes aussi pour les observateurs.
Mais pour compléter la question, je vais venir à vous, Angela Ulrich, rassurez-vous. Jakob Fogel, est-ce qu'au fond, la question qui est posée, c'est est-ce qu'elle doit abréger son règne aujourd'hui? On va essayer d'y répondre. D'abord, on va marquer une pause. On va revenir sur Paris, si vous le permettez, avec le rappel de l'info à 20h et 50 minutes sur France Info. Et vous, Thomas Benesch.
Autorisation de sortie de prison accordée pour l'ex-président Lula, incarcéré pour corruption. Décision d'un juge brésilien après cet arrêt rendu hier soir par la Cour suprême du pays. Elle décide qu'il n'y aura plus d'incarcération tant qu'un suspect n'aura pas épuisé tous les recours à sa disposition. C'est une première en France. 2 arrêtés anti-pesticides validés aujourd'hui par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce prix au printemps dernier par les villes de Gennevilliers et Sceaux. Des arrêtés considérés comme de l'affichage par la ministre de la Transition écologique. Elle rappelle sur France Info l'interdiction des pesticides en ville, dans les espaces publics et les jardins de particuliers. 3 syndicats de la SNCF appellent désormais à la grève à partir du 5 décembre prochain contre la réforme des retraites. La CGT rejoint aujourd'hui Sudrail et l'UNSA Ferroviaire. La Confédération souligne ce vendredi le rejet par les cheminots des contours de cette future réforme des pensions. La présidente de la Commission européenne prend la défense de l'OTAN ce soir, institution qui s'est montrée, selon ses mots, remarquable en tant qu'écran protecteur de la liberté. Réponse aux propos du chef de l'État français. Dans un entretien à The Economist, Emmanuel Macron a considéré l'Alliance Atlantique en état de mort cérébrale.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Allez, nous allons refermer ces informés de France Info. Nous sommes toujours en direct de l'ambassade de France, ici à Berlin, juste à côté de la porte de Brandebourg, illuminée. C'est assez splendide comme spectacle, avec en plus de la musique, apparemment une foule qui se presse autour de la porte en question pour fêter, vous le savez, le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Angela Ulrich, nous évoquions à l'instant Madame Merkel, Angela Merkel, chancelière de l'Allemagne, dont le règne a duré, vous me disiez, Jean-Marc Four, 13 ans. Cette dirigeante aujourd'hui, on va dire qu'elle aura porté au plus haut, au plus fort, cette Allemagne qui empile les excédents d'une santé économique insolente. Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, cela suffit pour, au fond, transformer ce pays?
Alors Merkel, elle a même dit que ça suffit pour elle là maintenant. C'est la première chancelière qui, de plein volet, de plein idée, elle a dit je veux finir. À la fin, je vais pas me présenter encore une fois. Mais comme vous avez avant discuté, dire si elle peut abréger tout ça, c'est pas si simple que ça. Il y a une coalition qui règne en Allemagne et les sociaux-démocrates qui peut-être eux vont quitter ce gouvernement parce que et si elles restent, elles vont pas seulement soutenir une autre candidate ou un candidat de la CDU. Donc, et en plus, l'année prochaine, c'est l'Allemagne qui préside l'Union européenne dans la deuxième moitié de l'année. Donc, seulement avoir une Allemagne qui n'a pas de gouvernement, peut-être, c'est pas si facile que ça. Donc là, je crois, moi, que Angela Merkel va vraiment tenir à rester chancelière, justement, parce que là...
Pour tenir, c'est ça.
Pour tenir et pour être là, en ce moment, elle dirige moins à l'intérieur de l'Allemagne, mais elle est encore très appréciée à l'extérieur et une leader très reconnue. Là.
Jean-Marc Four, la France a changé de visage, de politique, on le sait, en 2017. Est-ce que c'est un épisode qui pourrait survenir ici, une sorte de bouleversement?
C'est possible parce que le duopole, le système à deux partis est quand même remis en cause aujourd'hui. On voit bien que les deux grands partis que sont la CDU et le SPD sont quand même en perte de vitesse et que montent assez clairement les nouveaux partis que sont d'un côté les Verts, de l'autre l'AFD. Donc c'est possible. Après, l'Allemagne, c'est différent de la France. Hein. La notion de stabilité ici est très importante. C'est pas un vain mot. Et les Allemands y tiennent. Donc, on ne peut pas tout à fait appréhender la chose de la même manière que la situation politique française. Je voulais juste rajouter un mot sur ce qu'a dit Effie sur l'emblème que représente Angela Merkel. Emblème extraordinaire, c'est vrai, qu'une Allemande de l'Est ait accédé à la chancellerie. En même temps, c'est un symbole qui cache la forêt. C'est-à-dire que vous prenez le gouvernement allemand, vous prenez la diplomatie allemande, vous prenez la haute administration allemande, vous prenez les managers des grandes entreprises allemandes. Il n'y a personne de l'Est ou quasiment personne de l'Est. Et c'est bien ça aussi, ça nous ramène à ces séquelles en quelque sorte de la réunification. C'est un arbre qui cache la forêt.
Effie Bolke, vous partagez le point de vue de Jean-Marc Four, il y a ce Absolument. Déséquilibre aujourd'hui.
Absolument. Je veux seulement citer le Spiegel Extra sur la réunification et sur la relation entre les Ossi et les Vessi sur le champ des acteurs et actrices. Il y a des personnes qui sont très, très arrivées, qui sont venues de la RDA et qui jouent des rôles en haut niveau. Mais dans les autres champs, c'est vraiment difficile.
Jakob Fogel, est-ce que, au fond, l'Allemagne doit réinventer son modèle géopolitique? Est-ce qu'elle doit se transformer aujourd'hui?
Comme tous les pays, l'Allemagne doit s'adapter.
Mais est-ce que c'est une urgence?
S'adapter, c'est une urgence. On a Donald Trump et malheureusement, il paraît que c'est quand même pas improbable qu'il continuera. Donc, de toute façon, il faut s'adapter et surtout avec une Europe qui sera moins puissante, moins grande, avec une Grande-Bretagne qui sort de l'Union. Donc il y a énormément d'éléments qui forcent l'Allemagne à changer. Mais ce qui est un peu la particularité du système allemand, qu'on va chercher, et surtout Angela Merkel, chercher à attendre un peu, attendre et pas du tout forcer la main tout de suite, plutôt voir un peu ce qui va sortir du débat. Et pour ça, je crois qu'Angela Merkel a été, au moins sur le plan intérieur, une championne de cette approche de politique. Attendre que les choses s'effacent et que les gens discutent là-dessus.
Angela Ulrich, on va bientôt conclure. Hein. À l'instant, Jacob Fogel évoquait le cas de M. Trump. Est-ce que vous pensez qu'il en a fini avec cette Europe, au fond, et du coup, ça impacterait aussi directement l'Allemagne?
Oui, mais il n'y a pas seulement, même si je suis d'accord que peut-être il sera réélu Donald Trump aux États-Unis, mais il y a quand même beaucoup d'autres gens qui savent qu'il faut être à un grand partenariat, que les États-Unis ont besoin de l'Europe, même si il faut s'orienter de nouveau, il faut un peu plus, il n'y a plus les blocs Ouest-Est. C'est plus compliqué là maintenant qu'avant et l'Allemagne doit s'adapter ou doit inventer comment réagir là très, très vite. Ouais.
Jean-Marc Four, il nous reste très peu de temps. Il faut conclure. Hein. Vous êtes optimiste?
Il faut toujours être optimiste. Mais moi, je pense qu'encore une fois, on est sur une fin de cycle.
Et que va mécaniquement
émerger une nouvelle génération de dirigeants en Allemagne. Moi, je pense ça. Et je pense que ça créera un nouveau cycle. Et tant qu'on n'est pas sorti de ce cycle-là, ben, ça va un peu patiner. Et voilà, ça va prendre du temps. Ça va traîner un peu. Voilà, c'est ça ma conviction intime. Mais c'est juste, quand on parie, on perd 9 fois sur 10. Hein.
Allez, merci à tous les quatre. Merci à vous, Angela Ulrich. Merci à Effie Bolk. Merci Jacob Fogel et merci à Jean-Marc Four d'avoir participé à ces informés spéciales éditions qui se poursuit d'ailleurs sur France Info. Et pour notre part, si vous voulez bien, on va aller faire un tour du côté de la porte de Brandebourg. Il y a quand même une certaine ambiance. Merci, bonne soirée. Merci d'avoir participé et suivi cette édition spéciale des informés à Berlin.